Eh bien, bienvenue, bonsoir et merci aux camarades d'être là pour la conférence du cercle Léon Trotsky de ce soir, qui va être consacrée aux banques. Les banques, un concentré du capitalisme en crise. Alors, avant de débuter, en attendant que les derniers camarades s'assoient, déjà, je voudrais vous demander de penser à éteindre vos téléphones portables. Et j'en profite aussi pour faire une annonce, pour dire que Lutte Ouvrière participera demain, samedi 20 novembre, à la manifestation parisienne contre les violences faites aux femmes, qui partira de la place de la République. Pour ceux qui veulent venir dans notre cortège, le rendez-vous est à 14h devant l'Indiana Café, place de la République évidemment, à l'angle du boulevard du Temple. C'est là que nous serons déjà rassemblés à ce moment-là pour rejoindre ensuite la manifestation. Voilà. Alors, sur le sujet de ce soir. Aujourd'hui en France, avoir un compte en banque est une obligation de fait. Sans compte en banque, on ne peut pas accéder à son salaire, ni à son allocation chômage, ni à son allocation familiale. Être privé de carte bancaire est une source de problèmes sans fin. On doit faire la queue des heures pour obtenir de l'argent liquide. La banque qui accorde un découvert ou le refuse, qui prélève des agios, qui accepte ou rejette les demandes de crédit, a un pouvoir énorme sur la vie quotidienne de la population. N'importe quelle entreprise, petite comme grande, a un ou plusieurs comptes bancaires et des crédits auprès des banques. Les banques contrôlent directement une grande partie de l'économie. La BNP, la plus grande banque française, gère à elle seule 410 milliards d'euros de capitaux. C'est plus que la valeur des richesses produites annuellement au Nigeria. Et cela rapporte gros à leurs actionnaires. Cette même BNP a augmenté ses bénéfices au troisième trimestre 2021 de 30% par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Et ce n'est pas un cas isolé. L'activité et les profits de toutes les grandes banques ont explosé pendant et depuis la crise sanitaire. À l'échelle mondiale, quelques centaines d'établissements bancaires ont une connaissance de la situation de chaque individu qui a un compte. Un compte en banque, évidemment, et a aussi les moyens d'étrangler des entreprises ou, au contraire, de les faire prospérer. Car ce pouvoir sur l'économie est, bien sûr, tout au service du profit. Les banques agissent comme un drain qui pompe la richesse mondiale pour l'utiliser là où des capitalistes y trouvent un intérêt. Toutes les maladies du système capitaliste actuel s'y trouvent. L'hypertrophie du secteur financier, la stagnation de la production des biens, la spéculation effrénée. Les banques sont un concentré des contradictions du capitalisme, ce système qui a mondialisé l'économie, connecté toutes les régions de la planète, qui a fait des travailleurs du monde entier les maillons d'une même chaîne de production et de distribution. Et ce même système capitaliste qui, d'un autre côté, n'utilise ses formidables capacités de production et de logistique qu'en fonction de leur rentabilité pour ceux qui possèdent les capitaux, quitte à plonger toute la société dans des crises catastrophiques. La dernière de ces grandes crises financières, celle de 2008, a été d'abord une crise bancaire qui s'est étendue à toute l'économie. Les banques sont souvent montrées du doigt par ceux qui prétendent dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive du capitalisme. En réalité, elles sont au cœur de l'économie capitaliste depuis sa naissance. Alors, on ne peut pas réformer les banques, ni l'ensemble du système financier, sans s'attaquer au problème de fond, la dictature des capitalistes sur toute l'humanité. Ce que nous voudrions montrer ce soir, c'est que le système bancaire actuel est à l'image de tout le système capitaliste. Il est devenu parasitaire, incontrôlable. Mais aussi que ce même système capitaliste fournit les bases pour une autre organisation sociale, à condition que les travailleurs prennent en main l'économie. Et pour traiter de ce sujet ce soir, je passe la parole à la camarade Claire Dunois.
Alors, les banques ont l'air de vivre en parasite avec l'argent des autres. Elles prêtent de l'argent contre des intérêts, elles font payer la tenue des comptes sur lesquels on doit déposer son argent. Elles ont donc l'air de faire simplement de l'argent avec de l'argent. Et ce n'est pas complètement faux. Leur position dominante peut leur donner la possibilité d'imposer des intérêts exorbitants et de faire des bénéfices sans rien produire. Mais ce pouvoir est loin de suffire pour expliquer leur importance dans le capitalisme. En réalité, les banques jouent un rôle indispensable dans le processus de production industrielle capitaliste depuis son origine. Alors, ce n'est pourtant pas le capitalisme qui a inventé la banque. Les métiers de prêteur d'argent contre intérêt et de changeur d'argent existaient avant. Parmi les premiers grands bourgeois, qui apparaissent à la fin du Moyen-Âge et surtout au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, il y avait d'ailleurs des banquiers richissimes qui ont construit des fortunes immenses grâce aux prêts. Il y avait aussi des grands commerçants qui profitaient de l'essor de l'économie marchande. Cette bourgeoisie marchande et bancaire a accumulé du capital grâce au commerce, grâce à la dette publique sur le dos des États royaux, mais aussi grâce au pillage des colonies, à l'expropriation des paysans. Et après un lent développement à l'ombre de ces États royaux, cette bourgeoisie marchande et bancaire a eu la force et le besoin de prendre la tête de la société. En Angleterre au XVIIe siècle, en France à la fin du XVIIIe siècle, des révolutions lui permettent de conquérir le pouvoir politique nécessaire à la poursuite de son développement économique. Et progressivement d'abord, de façon explosive ensuite, les capitaux accumulés entre les mains de cette bourgeoisie s'investissent dans la production elle-même, lui donnant des possibilités de développement sans limite. C'est la révolution industrielle. L'Europe, de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, se couvre d'usines textiles, d'établissements sidérurgiques, bientôt de chemins de fer, d'exploitations minières et de banques. La bourgeoisie transforme toutes les structures de production en Europe et bientôt aux États-Unis et dans le reste du monde. Alors le moteur de tout ce bouleversement, c'est la nécessité de faire prospérer le capital. Le capital, ce n'est pas juste de l'argent, comme tout un chacun peut en avoir. Vous et moi, nous utilisons de l'argent pour acheter des marchandises que nous consommons, comme de la nourriture, un logement, un abonnement téléphonique. Mais pour le capitaliste, cet argent est un moyen d'enrichissement. Il place son capital pour en tirer un profit, c'est-à-dire pour récupérer une somme d'argent supérieure à celle qu'il avait au départ et la replacer à nouveau. Le capitaliste doit faire grossir son capital en permanence, d'une façon ou d'une autre. Et si la bourgeoisie a transformé toute l'économie et toute la société, c'est parce qu'elle a trouvé dans la production industrielle un moyen de rentabiliser le capital, de fabriquer du profit. Il a fallu pour cela tout un contexte créé dans les siècles précédents, le développement du commerce mondial, l'accumulation de capital et la formation d'un prolétariat qui n'avait pas d'autre choix que d'aller s'embaucher dans les usines. Car l'origine de ce profit industriel, c'est l'exploitation des travailleurs. La valeur des marchandises qui sort d'une usine est supérieure à la valeur de ce qui a été nécessaire pour produire ces marchandises. Par exemple, du coton brut devient des draps que le capitaliste va vendre plus cher que ce que lui ont coûté le coton, les machines et les salaires. Et ce qui crée cette valeur supplémentaire, c'est le travail humain. En fait, les travailleurs produisent une valeur plus importante que les salaires qui leur sont versés. Cette valeur supplémentaire, c'est ce que nous, les marxistes, nous appelons la plus-value. Elle est créée dans la production par les travailleurs, mais ce sont les capitalistes qui se l'approprient. Sauf que pour que le capitaliste qui possède une usine touche réellement son profit, eh bien, il faut d'autres étapes qui ne se déroulent pas dans l'usine et qu'il ne contrôle pas de bout en bout. Et c'est là où les banques sont indispensables. Alors, pour comprendre leur rôle, mettons-nous temporairement à la place d'un capitaliste de l'industrie. Lorsqu'il lance une production, il doit investir dans des machines, des bâtiments. Il doit acheter des matières premières, payer des salariés. Mais son profit, il ne l'obtient qu'une fois la marchandise produite et surtout vendue. Son capital est donc immobilisé pendant le processus de production. Le capitaliste ne se rembourse de son investissement de départ avec une plus-value que quand la production arrive sur le marché et est achetée, si elle trouve un acheteur. Et en attendant ce moment, il lui faut avancer des frais. Les patrons sont tous des acheteurs de matières premières, de machines, etc., avant d'être des vendeurs. Ils ont donc besoin d'argent entre le moment de leurs dépenses et le moment de la vente de leurs marchandises. Ce problème est renforcé par l'existence de cycles de production. Il peut arriver que dans un secteur, les ventes soient concentrées à un moment de l'année, par exemple les jouets à Noël ou les parapluies à l'automne. Mais c'est toute l'année qu'il faut payer le loyer, les salaires, etc. Et si les patrons gardent en réserve de quoi assumer toutes ces dépenses, bien ils immobilisent plus de capital. C'est de l'argent qui dort et qui ne rapporte rien. Il est donc plus intéressant pour eux d'utiliser le maximum de leur capital dans la production et d'emprunter à une banque pour financer les investissements, payer les matières premières, les salaires, etc. Alors bien sûr, tout ça repose sur un pari, celui que la marchandise trouvera un acheteur et à un prix suffisamment élevé pour qu'on puisse faire un profit soi-même et rembourser la banque. Du point de vue du banquier, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien lui, il avance l'argent nécessaire à la réalisation de la plus-value, argent que le capitaliste industriel ne récupère réellement qu'après tout le processus de production puis de vente des marchandises. Et là, il peut rembourser le banquier. Alors l'intérêt du capitaliste industriel qui fait un emprunt, c'est d'immobiliser le moins de capital possible. Et l'intérêt du banquier, c'est de récupérer, à travers les intérêts du crédit, une partie de la plus-value qui a été réalisée dans l'industrie. Chacun a donc son intérêt, et à l'échelle de l'économie, ça permet une circulation fluide du capital en limitant le moment où il est immobilisé dans des machines ou dans des coffres-forts. Et ça, c'est une première raison qui explique que les banques se développent au XIXe siècle parallèlement au développement de l'industrie. Des milliers de banques sont créées dans tous les pays en train de s'industrialiser, des banques de toute taille, depuis des petites banques régionales jusqu'à des grandes banques nationales. La bourgeoisie industrielle a eu besoin des banques dans son développement pour une autre raison encore, c'est qu'il a fallu mettre en œuvre des capitaux de plus en plus importants au cours du temps pour dégager du profit. Dès les premières décennies de la révolution industrielle, au XIXe siècle, par exemple dans le textile, on ne pouvait plus fonder une entreprise rentable en se contentant du capital familial. Il fallait faire un emprunt pour démarrer. Et c'était encore plus vrai dans les secteurs qui nécessitaient des investissements de départ massifs, comme la sidérurgie. Dès les années 1830, ce sont de grandes banques parisiennes qui ont financé les chemins de fer français. Et au fur et à mesure de l'accumulation du capital, depuis le XIXe siècle, les entreprises deviennent de plus en plus grandes et nécessitent un capital de plus en plus important. Cela s'explique par le fait que le système capitaliste est un système concurrentiel, un système dans lequel les patrons sont en concurrence les uns avec les autres. Pour continuer avec l'exemple du textile, un capitaliste du textile, il ne produit pas pour les besoins d'une population qu'il connaîtrait dès le départ. Il produit pour un marché potentiel, sur lequel il n'est pas tout seul. Si le textile rapporte, ce secteur va attirer d'autres capitalistes. Et pour être le gagnant sur le marché, il faut baisser ses coûts de production. Il faut produire pour moins cher que les autres pour pouvoir baisser un peu ses prix et gagner des parts de marché. Alors pour baisser leurs coûts de production, les capitalistes cherchent toujours en permanence à aggraver l'exploitation des travailleurs, à leur voler une plus grande part de leur travail, en tirant les salaires vers le bas, en augmentant les cadences, le temps de travail. Et parallèlement, ils cherchent à augmenter la productivité en investissant dans des machines plus performantes. Mais investir dans des machines, ça coûte cher et ça nécessite d'avoir plus de capital à placer. Donc la concurrence capitaliste tente à faire augmenter la taille des investissements nécessaires pour dégager un profit. Et cela entraîne la nécessité de rassembler des capitaux qui dépassent la propriété familiale, par exemple en contractant un emprunt auprès d'une banque. Alors d'où vient ce capital que les banques prêtent à d'autres capitalistes ? Bien au départ, les banquiers prêtent leur propre capital, éventuellement en s'associant à plusieurs. Et ils placent aussi celui des riches rentiers oisifs contre intérêt. Et puis au cours du XIXe siècle, les banquiers ont petit à petit rassemblé l'argent de tous ceux qui en avaient pour l'utiliser comme capital, y compris l'argent des classes non capitalistes, les classes petites bourgeoises qui avaient quelques économies. Et progressivement, comme on le voit aujourd'hui, l'argent des travailleurs, dont les dépôts servent, directement ou indirectement, à augmenter le capital disponible pour les entreprises. Les banques jouent donc un rôle de centralisation du capital, de mise en commun des capitaux disponibles au profit des capitalistes. Alors, elles jouent encore un autre rôle indispensable à la circulation du capital et qui explique qu'elles se soient développées parallèlement au développement de l'industrie. Les banques créent la monnaie qui est nécessaire aux échanges. Alors, la monnaie, qu'est-ce que c'est ? C'est un étalon de toutes les autres valeurs qui permet de comparer la valeur d'une voiture, d'une baguette de pain, d'une orange et de tout ce qu'on veut. Pendant longtemps, la monnaie, qui existe avant le capitalisme, la monnaie a été faite de métal précieux, souvent d'or ou d'argent. Mais à la Renaissance, avec la multiplication des échanges marchands en Europe, les banquiers inventent la monnaie papier. Au lieu de faire circuler directement les pièces de monnaie, les grands banquiers, les grands marchands, se déplacent avec des morceaux de papier qui garantissent qu'ils disposent quelque part chez un banquier de telles sommes d'argent ou d'or. À cette époque, la règle veut qu'on puisse échanger ce papier-monnaie contre le métal précieux quand on veut. Donc la quantité de monnaie disponible dans la société, ce qu'on appelle la masse monétaire, cette quantité de monnaie est équivalente à la quantité de métal précieux. Il y a autant de bouts de papier que d'or et d'argent dans les caisses. Mais dans les siècles suivants, le développement commercial puis industriel est tellement massif que la quantité d'or en Europe ne suit pas. Et le manque de métal précieux risque de limiter les échanges possibles. Une solution, c'est d'émettre plus de billets de banque que l'on a de réserves d'or dans ses caisses. Eh bien, c'est ce que font les grands banquiers fondateurs de la Banque d'Angleterre dès 1694, Angleterre qui est le cœur de la révolution industrielle et du développement de la bourgeoisie. Ils le font grâce à un privilège accordé à l'État. Et donc, ils émettent plus de billets qu'ils n'ont de réserves et ainsi, ils créent de la monnaie qui permet de faire des échanges. Et au cours du XIXe siècle, cette pratique se généralise. Les banques prêtent plus d'argent qu'elles n'en ont en dépôt. Et plus la production industrielle et les échanges se développent, plus il faut de monnaie, alors la masse monétaire augmente plus que la production de richesses. En France, par exemple, entre 1820 et 1921, la croissance de la masse monétaire est deux fois plus importante que celle de la production, et les banques en sont à l'origine. Donc, pour résumer, la fonction fondamentale des banques, c'est d'aider à la circulation du capital. Ça passe par des avances de frais pour éviter l'immobilisation du capital, par la centralisation du capital disponible à l'échelle de la société, par la mise à disposition de monnaie pour permettre la multiplication des échanges. Et ces fonctions existent toujours aujourd'hui, même si elles prennent des formes plus complexes qu'il y a deux siècles. Pour toutes ces fonctions, le banquier se fait évidemment rémunérer en exigeant un intérêt, c'est-à-dire en prélevant une partie de la plus-value créée par les travailleurs au cours de la production. Alors, les banquiers font-ils simplement de l'argent avec de l'argent ? Bien oui et non. L'impression que l'argent peut se reproduire tout seul est une illusion d'optique. À l'échelle de la société, il y a bien une création de richesse quelque part. Mais cette illusion est liée à une réalité. Parmi les capitalistes, certains sont spécialisés dans les fonctions permettant la circulation du capital. L'origine du profit, c'est la plus-value. Mais ça, c'est vrai à l'échelle de toute la société. Un capitaliste individuel, lui, ne raisonne pas comme ça. Si l'industrie lui rapporte, il investit dans l'industrie. Si le prêt d'argent lui rapporte, il s'y consacre. En d'autres termes, il n'y a pas de bons capitalistes industriels qui se soucient de produire et de mauvais capitalistes bancaires qui ne pensent qu'à l'argent. Le capitaliste industriel n'a lui aussi pour objectif que de faire grossir son capital, et le capitaliste bancaire vit lui aussi de l'exploitation des travailleurs, même si c'est plus indirect. Alors, au cours du développement industriel du XIXe siècle, les banques ont concentré de plus en plus de capitaux. Elles les ont répartis entre les différentes branches de l'économie, pas de façon planifiée, ni en se posant le problème de l'intérêt général, mais de façon aveugle, par la recherche du meilleur taux de profit. Elles ont fluidifié la production par le crédit, centralisé les ressources pour les orienter vers les secteurs qui intéressaient des capitalistes. Elles ont contribué à la mise en place d'un système de production collectif, mondial, qui a fait augmenter les forces productives dans des proportions inédites. Tout ce développement repose sur l'exploitation. Mais c'est la classe capitaliste dans son ensemble qui vit du travail de la classe ouvrière. Pour que le profit se réalise, il faut des usines, mais il faut aussi des commerces, des moyens de transport et des banques. Et à chacune de ces étapes, des capitalistes reçoivent leur part de plus-value. Du point de vue des travailleurs, ce qu'il faut contester, ce n'est donc pas la façon dont la classe capitaliste se répartit la plus-value, mais le fait même qu'elle se l'approprie, le fait que tout son pouvoir repose sur l'exploitation des travailleurs. Par contre, pour les capitalistes, la répartition de la plus-value entre eux est un enjeu fondamental. Eux sont en concurrence permanente, en guerre même, pour la meilleure rentabilité pour leurs capitaux. Alors, dans l'histoire du capitalisme, les relations entre les différents secteurs, commerce, industrie, banque, ces relations ont évolué. Au XIXe siècle, beaucoup de banques, notamment des banques régionales, avaient un rôle d'intermédiaire assez modeste. Elles prêtaient de l'argent aux industriels de la région, mais elles ne contrôlaient pas la production. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Les grandes banques ont éliminé les petites et elles ont acquis un pouvoir énorme sur des filières entières. Et en fait, cela ne date pas d'aujourd'hui. Déjà au début du XXe siècle, le capitalisme était dominé par des grandes entreprises, des monopoles gigantesques, qui faisaient la loi sur toute l'économie. Dans le secteur de la banque, cela s'est traduit, avant la Première Guerre mondiale, par une concentration de plus en plus poussée. Et les grandes banques actuelles se sont construites dans cette période. En France, c'était déjà le Crédit Lyonnais, la Société Générale et le Comptoir National d'Escompte, qui est un ancêtre de la BNP. En Angleterre, c'était la Barclays ou la Lloyd, qui existent toujours aujourd'hui. Et aux États-Unis, le marché était déjà dominé par JP Morgan, un géant dont les descendants sont toujours aujourd'hui en tête du classement des banques américaines. La puissance de ces grands groupes bancaires n'avait plus rien à voir avec celle des banques du XIXe siècle. Et la nature de leurs relations avec les grandes entreprises du secteur productif avait, elle aussi, changé. Par exemple, aux États-Unis, Rockefeller, fondateur de la Standard Oil Company, avait réussi à mettre la main sur toute la chaîne de production et de commercialisation du pétrole. Et sa puissance financière dépassait celle de n'importe quelle banque de la période précédente. Et il avait d'ailleurs aussi une activité de banque d'investissement. JP Morgan, lui, était un banquier, mais il contrôlait toute une partie de l'acier à travers le trust US Steel et du commerce maritime. Il était ainsi propriétaire du Titanic, dans lequel il a renoncé au dernier moment à monter. Si l'un était d'origine industrielle, Rockefeller, et l'autre d'origine bancaire, JP Morgan, ces deux trusts étaient des frères jumeaux. Ils avaient un poids, un droit de regard, un pouvoir de contrôle sur des filières industrielles entières. La différence entre les banques et les entreprises industrielles n'avait pas complètement disparu. Les banques géraient des dépôts, faisaient des crédits, ce que ne faisaient pas les entreprises industrielles. Mais petit à petit, les plus grandes entreprises ont fini par former un même ensemble. On voit alors émerger un grand capital financier, ni purement bancaire, ni purement industriel, qui imbrique les secteurs capitalistes les uns avec les autres. Les dirigeants des banques et ceux des trusts industriels étaient liés par des participations financières, la présence dans les mêmes conseils d'administration. Ils avaient le même type de lien avec les dirigeants de l'État. Et cet État leur était tout dévoué. Car cette époque des monopoles, dans la banque comme dans l'industrie, c'est aussi celle de l'exacerbation de la concurrence sur un marché capitaliste saturé. Au début du XXe siècle, le capitalisme avait transformé de fond en comble toute l'économie des pays développés. La rentabilité des capitaux placés dans l'industrie a eu tendance à baisser. Il fallait donc trouver d'autres placements. Et les grands capitalistes les ont trouvés à l'étranger. Par les prêts, les banques ont organisé l'exploitation impérialiste du monde avec l'aide diplomatique et militaire des États. Mais ces pays impérialistes étaient en plus en concurrence pour l'accès de leurs capitalistes aux marchés mondiaux et au placement de leurs capitaux à l'étranger. Et cette concurrence a plongé le monde entier dans une première guerre mondiale effroyable à partir de 1914. Et nous ne sommes pas sortis de cette phase du capitalisme. En 1916, en pleine guerre, Lénine écrivait que le capitalisme avait atteint son stade suprême, le début de la sénilité. Après avoir développé la production, après l'avoir mondialisé, il s'enfonçait dans ses contradictions et surtout y enfonçait l'humanité. Mais l'écrasement de la vague révolutionnaire après la Première Guerre mondiale, puis le pourrissement bureaucratique des directions du mouvement ouvrier international lui ont permis de survivre. Et cette survie a coûté cher à l'humanité. Après une deuxième guerre encore mondiale encore plus meurtrière que la précédente, de la fin des années 30 à 1945, le capitalisme a connu une courte phase d'expansion jusqu'aux années 1970. Mais cela fait maintenant 50 ans que la dictature du capital financier se traduit par une longue crise dont les dirigeants du système eux-mêmes ne savent pas sortir. Et le poids des banques dans l'économie actuelle en est le reflet. Alors en effet, depuis le début des années 1970, la saturation des marchés entraîne une baisse de rentabilité de la production industrielle. Et les capitaux s'orientent de plus en plus vers les activités financières. C'est pour ça que les économistes parlent de financiarisation de l'économie. Les activités financières, comme par exemple les ventes et les achats d'actions à la bourse, augmentent beaucoup plus vite que la production de biens et de services. Ça signifie que, sur la base de la richesse produite, les capitalistes font de plus en plus d'opérations financières et réinvestissent de moins en moins, d'une part de plus en plus faible, de la plus-value dans la production. Et les banques sont en première ligne de ce développement de l'activité financière. D'abord, leur concentration n'a pas cessé de se renforcer tout au long du XXe siècle. Aujourd'hui, quelques dizaines de groupes bancaires dominent le marché mondial. Ces groupes exercent une dictature sur toute l'économie. En France, les crédits bancaires assurent aujourd'hui plus de 80% du financement externe des petites et moyennes entreprises. Alors même les groupes industriels les plus puissants ne peuvent pas se passer de crédit bancaire. Mais ils ont d'autres moyens de financement et surtout ils ont des moyens de négociation. Par contre, les patrons moins puissants, voire tout petits, et qui sont formellement indépendants, sont en réalité soumis au bon vouloir de la banque. Le grand capital contrôle le petit et les banques sont un des moyens de ce contrôle. Ce sont elles qui décident quelle activité sera financée ou non. La meilleure idée du monde, trouvée par un chercheur ou un inventeur tout seul dans son coin, ne peut devenir une réalité que si elle intéresse des capitalistes. Et l'utilité sociale n'est pas un critère. Armes, luxe, loisirs pour riches trouvent sans difficulté des financements. Tandis que pour des activités utiles, voire vitales, comme celle d'associations caritatives, eh bien il faut faire appel à des campagnes de dons et à la charité publique. Comme depuis le début du XXe siècle, le capital financier qui domine l'économie n'est spécialisé ni dans les activités bancaires, comme le prêt, ni dans le secteur productif. Par exemple, le groupe Stellantis, géant de la construction automobile mondiale, fait des voitures, mais il fait aussi de la banque et de la finance. Il s'agit d'une holding, c'est-à-dire une société financière, qui regroupe à la fois des activités d'assemblage de voitures de plusieurs marques, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, donc des activités d'assemblage de voitures, des activités industrielles variées de sous-traitance, et un groupe bancaire, PSA Bank. Alors ce n'est pas nouveau que les constructeurs automobiles aient des banques pour prêter aux acheteurs de quoi acheter leur voiture à crédit. Mais ce qui est plus récent, c'est que les profits du groupe sont tirés par les activités de cette branche bancaire, plus que par la construction automobile. En fait, le groupe compense la moindre rentabilité de la vente de voitures par le développement de ses activités financières. Autre exemple, le groupe Total, qui est la plus grosse capitalisation française. C'est un groupe industriel qui produit du pétrole. Mais parmi ses actionnaires, on trouve des banques, comme la BNP. Par ailleurs, Total place sa trésorerie dans plusieurs autres banques, pour ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier en cas de crise. Il fait des crédits auprès de groupes bancaires pour des gros investissements. Et pour finir, il a lui-même des activités bancaires, notamment dans les pays pauvres. Autre pétrolier, même pratique, les activités de marché, purement financières donc, représentent aujourd'hui un cinquième des profits du géant BP. Et ce trust, du pétrole aussi, hein, ce trust est très lié à une très grande banque américaine, Goldman Sachs. À une époque, le président de BP était aussi le directeur de la filiale européenne de Goldman Sachs. Cette concentration du capital financier, elle touche aussi le secteur du commerce. Les multinationales de la grande distribution ont elles aussi des filiales bancaires, comme par exemple Carrefour Bank ou la banque Edel, filiale de Leclerc. Elles organisent ainsi elles-mêmes le crédit aux consommateurs, qui leur permet de maintenir leur marché malgré la stagnation des salaires. Elles ont des activités purement financières en plus de leur activité commerciale, et elles ont aussi souvent des banques parmi leurs actionnaires. Le capital financier domine donc tous les secteurs de l'économie. La finance et la production sont complètement imbriquées. Alors aujourd'hui, les banques ne sont pas les seules, ne sont plus les seules à organiser cette imbrication. D'autres structures ont pris une grande importance pour concentrer le capital et organiser ce placement des capitaux dans ce qui rapporte, et en particulier ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Le principe d'un fonds d'investissement ressemble à celui d'une banque. Il s'agit de rassembler des capitaux, ce que les financiers appellent des actifs, pour les faire fructifier. L'un des plus célèbres et les plus puissants est BlackRock, qui gérerait 10 000 milliards de dollars d'actifs, plus de 3 fois le produit intérieur brut de la France. Alors, les fonds d'investissement ne disposent pas des dépôts de toute la population, à la différence des banques, et ils ne peuvent pas faire de crédit direct. Mais ils sont moins régulés et ils peuvent faire des investissements plus risqués, donc potentiellement plus rentables. Voilà pourquoi ils ont la réputation d'être particulièrement cyniques et spéculateurs. Mais en fait, banques et fonds d'investissement sont deux formes de concentration du capital qui fonctionnent un peu différemment, mais qui ne s'opposent pas. Elles se complètent. On peut y ajouter une troisième forme de concentration du capital qui est la bourse. La bourse permet, elle aussi, aux grandes entreprises de rassembler du capital. Mais là aussi, tout ça est complètement lié. Ce sont les banques qui organisent les liens entre les entreprises et la bourse. Ce sont les banques qui émettent les titres, comme les actions par exemple, contre des commissions qui représentent une partie importante de leurs revenus. Donc ces composantes du secteur financier, banques, fonds d'investissement, bourses, sont en fait devenues complètement interdépendantes. Les banques sont cotées en bourse, elles vendent des services financiers aux fonds d'investissement, elles créent elles-mêmes des fonds d'investissement, et dans l'autre sens, les fonds d'investissement participent au capital des banques. Le système financier n'est pas constitué de caissons étanches, avec des bons capitaux qui s'investissent dans la production d'un côté et des mauvais capitaux qui font de la spéculation de l'autre. Tout ça est complètement entremêlé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'activité qui rapporte le plus aux banques dans le capitalisme actuel, c'est la même que celle des fonds d'investissement. Les banques font toujours des crédits classiques aux entreprises de toute taille. Mais ce qui leur rapporte le plus, c'est de placer des produits financiers. Leur catalogue est très vaste. Sur le site internet de la BNP, on peut ainsi choisir entre des centaines de produits. On y trouve tous les secteurs de l'économie. La BNP a des participations dans presque toutes les grandes entreprises françaises. Et elle a ses propres fonds d'investissement. Autre exemple, parmi les actionnaires de la banque américaine JP Morgan Chase, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle The Vanguard Group. Ce fonds d'investissement est aussi le premier actionnaire d'Apple, de Microsoft, de Facebook et de Google, et le deuxième actionnaire d'Amazon. Donc ces entreprises qu'on appelle les GAFAM, elles sont en concurrence, mais en même temps, elles ont en partie les mêmes actionnaires. Et ce n'est contradictoire qu'en apparence, parce que le capital financier est justement capable d'investir dans une multiplicité d'entreprises et de se déplacer au gré de la rentabilité des unes et des autres. Que Facebook s'effondre devant Google ou que ce soit l'inverse, dans tous les cas, The Vanguard Group sera gagnant et à travers lui, la banque JP Morgan Chase. Le système bancaire a ainsi des ramifications dans toute l'économie, des investissements de longue durée à la spéculation financière à court terme, des toutes petites entreprises qui ont besoin d'un crédit jusqu'aux multinationales dans lesquelles elles placent leurs capitaux. Ainsi, le capital financier met en réseau tous les secteurs. Alors, même s'il existe d'innombrables entreprises de toute taille, formellement indépendantes, l'économie est au bout du compte contrôlée par un grand capital puissant. Et au sommet de ce grand capital, on trouve en fait un nombre réduit de grands bourgeois. Certains appartiennent à des familles qui ont traversé les époques, comme les Peugeot en France ou les Rockefeller aux États-Unis. Et d'autres ont émergé plus récemment, comme Jeff Bezos ou Bill Gates. Et en fait, c'est à eux que rapporte le plus cette concentration du capital. Jeff Bezos ne possède que 11% d'Amazon. Mais le fait que des banques et des fonds d'investissement possèdent le reste d'entreprises sous forme d'actions, le reste de l'entreprise sous forme d'actions, eh bien, ça lui permet de faire des affaires sur la base d'une capitalisation boursière bien plus élevée qu'il ne pourrait pas posséder individuellement. Si Amazon est à ce point rentable, donc l'entreprise de Jeff Bezos, c'est parce que c'est un monopole. Mais pour atteindre la taille d'un monopole, il faut plus que la fortune d'un individu, même de l'homme, même la fortune de l'homme le plus riche du monde. Autre exemple, la famille Peugeot, elle ne possède plus 100% du capital de toutes les entreprises qu'elle contrôle. Elle ne possède qu'une partie du groupe, mais elle contrôle l'utilisation des capitaux de tout le groupe, même ceux qui ne lui appartiennent pas. Et en fait, elle garde le contrôle sur le groupe sans avoir à assumer tous les investissements avec le seul capital familial, qui serait de toute façon insuffisant. La dictature du capital financier, c'est donc en réalité, derrière l'anonymat des capitaux, celle de la grande bourgeoisie. Alors même si ça a changé dans la forme, les banques actuelles ont sur le fond la même fonction qu'au début du capitalisme. En aidant à la circulation et à la concentration du capital, elles participent au processus par lequel les capitalistes font grossir ce capital en passant par l'étape de la production où le travail des salariés crée la richesse. Ce qui a changé, c'est surtout ce que la classe capitaliste fait de cette plus-value. Aujourd'hui, elle l'utilise beaucoup plus pour des activités financières que pour réinvestir dans la production, dilapidant ainsi en spéculation le produit du travail collectif. Alors, cette dictature du capital financier, elle s'étend sur toute la planète. Et ce sont toujours les États-Unis qui dominent la finance mondiale. Les banques américaines sont les premières sur le marché de la banque d'investissement. La finance américaine a des ramifications dans le monde entier, à travers des participations dans les entreprises sur tous les continents. Sa puissance se traduit par la domination de sa monnaie, le dollar. 40% des échanges dans le monde se font dans cette monnaie. Et les États du monde entier stockent des dollars pour en avoir en réserve. Des centaines de banques non américaines dans le monde ont des activités en dollars. Et cela les rend d'ailleurs dépendantes des décisions des autorités des États-Unis. La BNP, toujours elle, a dû accepter de payer une amende de près de 9 milliards de dollars pour avoir enfreint les embargos américains contre Cuba, l'Iran et le Soudan. Elle a payé, parce qu'elle ne peut pas se permettre d'être exclue du marché financier américain. Et les plus grandes bourses mondiales, de très loin, sont américaines. Pourtant, si on regarde le classement des banques chinoises, des banques mondiales, pardon, on constate que les quatre premières en taille sont chinoises. Ce qui fait dire à certains journalistes que les capitaux chinois détrônent ceux des pays impérialistes. Bon, en réalité, on en est loin. D'abord, la taille des banques chinoises est surtout liée à la taille du marché de ce pays qui compte 1,4 million d'habitants. Milliards, pardon, décidément. Donc 1,4 milliard d'habitants. Et en 2016, la plus grande banque du pays, ICBC, réalisait plus de 90% de ses bénéfices en Chine. Dans les vieux pays capitalistes, les grandes banques se sont formées par un processus de concentration. En Chine, cela ne s'est pas du tout fait de la même façon. La concentration a été créée par l'État chinois suite à la révolution maoïste. Et leur développement récent reste complètement lié à la politique de l'État chinois et à l'ouverture du pays aux capitaux étrangers depuis les années 1980. La taille des banques chinoises reflète aussi l'endettement de l'économie chinoise, surtout depuis la crise de 2008. La croissance se poursuit, mais largement à crédit. Et les banques chinoises sont d'abord les créancières de l'économie chinoise, où se développent des bulles spéculatives, en particulier dans l'immobilier. Actuellement, un promoteur immobilier géant, Evergrande, est au bord de la faillite. Il a accumulé une dette gigantesque et il pourrait entraîner dans sa chute les banques qui lui ont prêté de l'argent. Alors pour l'instant, l'État chinois intervient financièrement pour éviter cette faillite, de même qu'il a déjà plusieurs fois renfloué des banques qui avaient accumulé des créances fragiles. Mais cet endettement est une illustration du caractère spéculatif de l'économie chinoise qui n'échappe pas au ralentissement mondial de la rentabilité des investissements productifs. Les banques chinoises ont certes une puissance financière importante du fait de leur taille sur le marché international, mais en fait, elles restent en position secondaire. Les investissements de la Chine, destinés à tenter de limiter sa dépendance au marché des pays impérialistes, sont cantonnés aux secteurs qui intéressent moins ou n'intéressent plus les capitaux de ces mêmes pays impérialistes. Ainsi, l'Afrique n'est plus que le sixième client de la France. Mais ce n'est pas parce que la Chine a chassé la France. C'est parce que les entreprises françaises se sont relativement désengagées. Par exemple, Bolloré envisage de vendre sa filière logistique africaine, qui lui a rapporté des sommes colossales pendant 30 ans. Il est possible qu'une partie des ports et terminaux à conteneurs de Bolloré soit demain vendue à des groupes chinois. Mais c'est parce que Bolloré, aujourd'hui, gagne beaucoup plus avec sa filiale Vivendi dans le secteur des médias que dans les activités industrielles. Autre exemple, si la Chine prête à l'Iran, ce n'est pas parce qu'elle en a chassé les États-Unis, c'est parce que ceux-ci imposent un embargo à ce pays. Alors non, ce ne sont pas les banques chinoises qui dirigent le monde, mais bien toujours celles des grandes puissances impérialistes. Et cette domination s'exprime aussi par leur domination sur les systèmes bancaires des pays pauvres. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la Société Générale reste la première banque du pays, avec 19% de parts de marché. Et on y trouve aussi la BNP et une grande banque américaine, Citigroup. Alors, il y a des banques ivoiriennes, par exemple une banque qui s'appelle Coris Bank, au sujet de laquelle un cadre de la Société Générale déclarait en 2019, je le cite, « Nos standards internationaux ne nous permettent pas de cibler le type de clientèle que finance Coris Bank dans la région. » En termes polis, ça veut dire que Coris Bank fait des prêts risqués à des tout petits entrepreneurs ivoiriens à des taux extrêmement élevés, pariant sur le fait que les remboursements des uns compenseront les défaillances des autres, prêts que n'ont pas besoin de faire les grandes banques comme la Société Générale. En taille, les banques africaines sont bien loin des banques des pays impérialistes. Ecobank, qui est la plus grande banque africaine indépendante, qui est basée à Lomé au Togo, est 50 fois plus petite que la BNP, et on parle bien de la plus grande de tout le continent. Et il va sans dire que les banques des pays dits démocratiques ne voient aucun problème à travailler en bonne entente avec les dictateurs les plus sanguinaires. Comme l'a déclaré un cadre de la BNP au sujet du Soudan, où la banque se chargeait discrètement d'aider le dictateur Omar el-Béchir à écouler son pétrole et à acheter des armes en échange, donc je le cite, « Si une banque commence à arrêter de travailler avec un pays parce qu'il y a des problèmes avec les droits de l'homme, alors elle ne travaille plus avec grand monde. » Alors, des capitalistes africains peuvent s'enrichir dans la banque, et les banquiers locaux qui imposent des taux usuraires ont de quoi susciter la haine de ceux qui sont obligés de s'endetter pour survivre. Mais l'essentiel du système bancaire de l'Afrique reste entre les mains des actionnaires, des grandes banques, des pays impérialistes. Et à des degrés divers, et sous des formes qui reflètent l'histoire de chaque région, c'est le cas dans l'ensemble des pays sous-développés. La domination des banques des pays riches prend une forme encore plus directe. Les prêts aux États. Alors, les prêts aux États sont vieux comme le capitalisme, mais ils ne font qu'augmenter. Ces 15 dernières années, la dette des pays les plus pauvres du monde a encore été multipliée par 2,5. Dans beaucoup de pays, le remboursement de la dette pèse plus dans le budget public que la santé ou l'éducation. Ces prêts sont parfois simplement indispensables pour rembourser les dettes déjà accumulées, et c'est un puits sans fond. Et c'est la population des pays pauvres qui paie au quotidien pour les intérêts des banquiers, par les impôts, par le manque d'investissement dans les services utiles. Ces pays sont endettés auprès de deux types d'institutions. D'une part, des organismes publics, comme la Banque mondiale et le FMI, institutions dites internationales, mais en réalité représentantes directes des intérêts des pays impérialistes. Et d'autre part, il y a l'endettement auprès des banques commerciales et des acteurs privés tels que des fonds d'investissement. Bien, ces dernières années, c'est la part de ces créanciers privés qui augmente. Et c'est pour assurer qu'ils toucheront leurs intérêts en priorité que pendant la crise du Covid en 2020, le FMI et la Banque mondiale ont annoncé suspendre une partie de la dette de 77 pays. En réalité, ils ont simplement reporté certaines échéances et ils ont suspendu uniquement les remboursements des créanciers publics pour que les créanciers privés soient remboursés en priorité. Cette dette prend la forme de prêts directs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les obligations souveraines. Les obligations, ce sont des produits financiers qui donnent droit à un intérêt versé tous les ans. On achète une obligation et tous les ans, on reçoit un intérêt. C'est une autre forme d'emprunt que le crédit direct. Pour émettre ces obligations, pour les fabriquer et les vendre, les États ont besoin des banques, dont c'est le métier. Et d'ailleurs, elles prennent une commission pour ça, bien sûr. Le montant des commissions perçues par les banques pour cette activité est d'ailleurs tenu secret. Le montant des intérêts que l'État emprunteur doit verser aux propriétaires des obligations, il est variable. Et ce montant est d'autant plus élevé que le pays est susceptible de ne pas rembourser. Cela s'appelle, en langage financier, le prix du risque. Dit plus clairement, cela revient à enfoncer la tête sous l'eau de quelqu'un qui est déjà en train de se noyer. Par exemple, les taux d'intérêt annuels des obligations souveraines du Cameroun atteignent 9,5%. Et pour comparaison, ceux de la France sont inférieurs à 1%. Donc ça revient à prêter presque gratuitement aux riches et à imposer des taux d'intérêt écrasants aux pauvres. Mais ce n'est pas tout. Ces obligations peuvent être achetées et revendues en permanence, et leur prix peut varier sur le marché financier. En fait, on peut spéculer sur la dette des États en achetant des obligations aujourd'hui pour les revendre un peu plus cher demain. On peut aussi spéculer sur des produits d'assurance sur cette dette, produits créés par les banques. Le marché de la dette, il rapporte donc aux banques non seulement parce que les États leur paient des intérêts, mais aussi parce qu'elles transforment cette dette en produits financiers rentables. Alors régulièrement, des États se retrouvent en faillite ou quasi-faillite, et pas seulement les plus pauvres. Le Mexique au début des années 1980, l'Argentine, en particulier en 2001, la Grèce en 2015, et bien d'autres. À chaque fois, les institutions financières internationales, porte-parole des intérêts impérialistes, imposent des plans d'austérité en échange de nouveaux prêts, ou parfois de la suspension d'une partie de la dette, lorsque de toute façon elle est impossible à recouvrer. Mais les conséquences sur la population sont toujours dramatiques. En Grèce, bien des rues des villes sont devenues des rues fantômes, avec des commerces fermés et des familles expulsées de leur logement et contraintes de dormir dehors. Baisse des salaires de 20% en quelques années, baisse des retraites, fermeture d'hôpitaux, délabrement des écoles. La crise de la dette a été une catastrophe qui a fait brutalement reculer les conditions de vie de la population. En Grèce, comme en Argentine auparavant et au Liban tout récemment, dès l'instant où la crise a éclaté, les banques ont bloqué les dépôts de la population en restreignant les retraits d'argent. Personne ne pouvait plus retirer plus de 60 euros par jour et il fallait faire une longue queue devant les distributeurs pour espérer récupérer quelques billets. Dans des pays où une grande partie des paiements se fait en liquide, ne pas avoir accès à des billets de banque est une condamnation à la misère. Même ceux qui ont quelques économies se retrouvent de fait sans ressources. Alors, la dette étrangle les pays pauvres au quotidien et elle plonge régulièrement des pays entiers dans le chaos. Cela pousse des associations à réclamer l'abolition de la dette des pays pauvres. Ce serait la moindre des choses que de faire passer la survie de la population avant les intérêts des banquiers. Mais cet objectif est en même temps un leurre. Déjà, il faudrait pour cela plus qu'une mobilisation puissante. Les banques des pays impérialistes ont leurs États de leur côté, et elles tiennent réellement entre leurs mains l'économie des pays endettés. En Grèce, en 2015, un candidat de gauche, Tsipras, avait été élu en promettant qu'il renégocierait la dette. Eh bien, il a dû se coucher devant les exigences des banques, et il a finalement fait, comme les gouvernements précédents, imposer des baisses de salaire, des coupes dans tous les services utiles à la population pour rembourser la dette. Alors ceux qui promettent qu'ils feront reculer les banques par des négociations dans des salons feutrés mentent et ils préparent les trahisons de demain. Il a fallu une révolution en octobre 1917 pour que la dette contractée par le tsar de Russie auprès des banques européennes soit annulée. Et en fait, le seul parti dans l'histoire qui soit allé jusqu'au bout de la contestation de la dette, c'est le parti bolchévique, un parti communiste, révolutionnaire, qui militait pour que les travailleurs prennent le pouvoir. Et si cette annulation de la dette a été possible, enfin ce refus de la dette a été possible, c'est parce que cette révolution est allée jusqu'à la prise de pouvoir par les travailleurs. C'est parce que cette révolution avait enlevé aux pays impérialistes leur contrôle sur toute l'économie russe et les moyens de pression dont ils disposent en temps normal. Et de toute façon, annuler les dettes dans le cadre de l'économie capitaliste, si tant est que ce soit possible, ne résoudrait pas le problème de fond. Car ce qui fait que les pays pauvres doivent s'endetter, c'est qu'ils sont dépendants du marché mondial, marché dominé par les pays impérialistes. On peut annuler la dette de la Côte d'Ivoire, mais ça ne changera rien au fait que son économie dépend des cours mondiaux des matières premières agricoles qu'elle exporte, parce que l'impérialisme l'a spécialisée dans ses productions. Si la vente de ces matières premières ne lui rapporte pas assez, elle doit emprunter pour acheter sur le marché mondial, au prix imposé par les pays riches, tout ce qu'elle ne produit pas elle-même, le carburant, le riz, les médicaments. Voilà pourquoi annuler la dette, même si ce serait la moindre des choses, ne permettrait pas en soi aux pays pauvres de sortir de la pauvreté. Et puis si la dette des pays pauvres les étouffe, celle des pays riches est elle aussi une lourde ponction sur la richesse sociale. La dette publique française aujourd'hui est supérieure au PIB annuel de la France. Celle des États-Unis a dépassé les 28 000 milliards de dollars. Tous les États du monde vivent à crédit et ils sont donc dépendants des marchés financiers en général et des banques en particulier. À travers la dette, le grand capital contrôle en réalité les États, pauvres comme riches. Dans les pays impérialistes comme la France, c'est une ponction des actionnaires des banques sur le budget de l'État à travers les intérêts de la dette. Dans les pays pauvres, le chantage à la dette est une dictature bien plus féroce qui réduit des milliards d'hommes et de femmes à la misère. Mais ce n'est qu'une conséquence même de l'existence de ces capitaux. Ce n'est qu'une conséquence de l'existence même de ces capitaux privés qui font la loi. Et l'annulation de la dette ne changerait rien au pouvoir que donne la propriété de ces capitaux. Et la seule perspective, c'est de mettre fin à ce pouvoir, c'est d'exproprier ces groupes bancaires et tous ceux qui vivent de la dette publique, fonds d'investissement et autres sociétés financières. Alors, se débarrasser de son banquier, bien des travailleurs en rêvent. Et effectivement, une des particularités des banques... est aussi de rassembler l'argent des classes non capitalistes. Elles ont commencé à le faire dès le 19e siècle, à travers ce qu'on appelle les banques de dépôt, celles où nous avons tous un compte. Comme le disait le fondateur du Crédit Lyonnais, « Monsieur Tout-le-Monde est plus riche que Monsieur de Rothschild ». L'obligation d'utiliser leurs services met l'ensemble de la population, y compris les travailleurs, sous la domination des banques. Alors aujourd'hui, les activités financières rapportent beaucoup plus aux banques que la gestion des dépôts. En France, les dépôts ne représentent plus qu'environ 25% du bilan des banques, contre plus de 70% au début des années 1980. Mais malgré tout, la gestion de l'argent des dépôts reste une source de profit, à travers la vente forcée de produits bancaires, les PAC avec plein d'options qu'on n'utilise pas, ou les agios. Les agios, c'est entre 6 et 7 milliards d'euros par an, rien qu'à l'échelle de la France. Donc c'est un racket permanent, et plus on est pauvre, plus la banque prélève des frais. Mais les dépôts des particuliers ne sont pas pour autant protégés. L'État français prétend qu'ils sont garantis, jusqu'à 100 000 euros en cas de faillite de la banque. On pourrait se dire, bon, on a le temps de voir venir. Mais en fait, le fonds qu'ils ont créé pour assurer ces dépôts, il ne compte que 5 milliards d'euros, pour des dépôts de près de 3 000 milliards d'euros. Donc ils ont mis 5 milliards d'euros de côté pour 3 000 milliards d'euros. Bon, évidemment, on est très loin du compte, et les dépôts, comme on le voit dans les crises de la dette, quand ils en ont besoin, ils ferment les dépôts et ils gardent cet argent pour en faire autre chose. Alors, les classes populaires sont donc un marché captif et sont aussi un marché pour les banques qui contrôlent une grande partie du crédit à la consommation. À défaut de disposer d'un marché solvable suffisant, du fait des bas salaires et du chômage de masse, les capitalistes cherchent depuis longtemps à l'élargir artificiellement, en prêtant aux classes populaires de quoi acheter leurs marchandises. C'est particulièrement le cas pour le marché immobilier. Rares sont les familles ouvrières qui peuvent acheter leur logement en une seule fois. Et les banques et sociétés de prêts ont ainsi un marché captif qui représente des sommes énormes. Alors, à l'échelle du monde entier, à travers toutes leurs activités, prêts aux entreprises, aux États, gestion des comptes courants, prêts aux particuliers, bien les banques sont au cœur de l'économie capitaliste et donc de ces crises qui plongent des populations entières dans la misère. Le dernier exemple en date, c'est la crise des subprimes en 2008. Les subprimes sont des prêts à des taux plus élevés que le taux normal, des surprimes. Les banques américaines en ont octroyé en masse à des gens à faible revenu, surtout au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les banques ont poussé des gens à emprunter avec des taux qui étaient bas au départ, mais en fait qui augmentaient d'année en année. Et pour éviter de faire les frais d'éventuels impayés, eh bien les banques ont vendu une partie de ces créances sous forme de produits financiers complexes. Cela a formé une bulle spéculative qui a fini par éclater quand les emprunteurs, les particuliers à qui on avait placé un prêt immobilier, ont été trop nombreux à ne plus pouvoir rembourser. L'interpénétration entre tous les secteurs de l'économie Et le fait que ces produits financiers toxiques soient disséminés un peu partout a étendu la crise à toute la finance mondiale. Et en septembre 2008, le système bancaire mondial a été au bord de l'arrêt cardiaque. La faillite d'une grande banque américaine, Lehman Brothers, a provoqué un début de panique générale. Alors les États sont venus à la rescousse pour renflouer le système bancaire en empêchant toutes les autres banques de s'effondrer en les soutenant financièrement. Aux États-Unis, en Europe, des milliers de milliards de dollars ou d'euros ont été déversés pour les sauver. Les banques ont été sauvées, mais pas la population. Des millions d'Américains ont été expulsés de leur logement et la crise financière a entraîné des hausses de prix des matières premières agricoles, condamnant à la famine des centaines de millions de gens dans le monde. Le fait que les banques organisent le financement de l'économie fait qu'une crise bancaire a forcément des répercussions sur tous les secteurs, s'étend forcément au secteur productif. Alors après cette crise, les banques ont été pointées du doigt comme responsables, jusqu'à Sarkozy, qui ne jurait que par la régulation des banques. Et voilà, si vous voulez savoir si Sarkozy a menti ou si les banques ont été mises sous contrôle, je vous propose de revenir après une petite pause.